pouvez pas en sortir de bien. Les stratégies militaires utilisées, offensives à outrance, etc., ont presque toutes échoué, avec une mortelle constance. Les victimes de cette politique et de ces stratégies dépassaient tout ce que l'on avait vu et imaginé. Toutes les prévisions, ou presque, étaient démenties, ce qui aurait pu inciter les décideurs à une certaine modestie, dont on relève cependant peu d'écho. Cette guerre constitue donc la quintessence de la panne de l'intelligence stratégique, le paradigme de la bêtise insolente. Et, plus mystérieux encore, les chefs n'ont pas été remis en question. Cette bande de pesante nullité a été honorée jusqu'à sa mort. Les peuples baignaient dans la même ambiance idéologique que les chefs. Ils ne voyaient donc rien de particulier dans la façon dont on les conduisait joyeusement à l'abattoir. C'est un des aspects troublants du trou noir que constitue la panne de l'intelligence stratégique. Pourquoi les peuples creusent-ils leur tombe en sifflotant? Et un trou noir est invisible par définition. C'est son côté troublant. Il faut tourner autour pour distinguer sa présence, subir l'effet gravitationnel. Les chefs, les décideurs, les stratèges, les dirigeants, comme on les appelle, ont une excuse universelle à leur panne récurrente. Ils décident dans un monde limité. Leur information est limitée, leur connaissance du réel est limitée, et surtout leur capacité de prévision est limitée. Ce que deviendra la décision dans les entrelacs de l'avenir est par nature inconnaissable. Dès lors, peut-on sérieusement reprocher à un décideur de s'être trompé? La panne ne concerne pas cela. L'erreur de perspective est presque inhérente à la stratégie, puisque ça ne se passe jamais comme prévu. Mais il s'agit ici plutôt de l'entêtement dans des stratégies qui n'ont aucune possibilité de réussir. Pourquoi renoncer à des stratégies aussi absurdes et qui échouent avec une aussi belle constance? À certains moments, la constance et l'obstination d'un groupe humain, d'une société, dans l'échec à outrance, finit par intriguer. Tout décideur est un enfumeur potentiel. Il doit vendre des certitudes pour rassurer alors qu'il n'est sûr de rien. Alors il raconte qu'il va tenir l'objectif de réduction de déficit, inverser la courbe du chômage, lancer la construction de lignes TGV, etc. Bien sûr, quelques années plus tard, on constate que les objectifs de réduction de déficit annoncés fièrement n'ont jamais été tenus. Pas une seule fois. Que la courbe du chômage est une belle ligne droite ascendante, pas courbe du tout. Que les lignes TGV annoncées au son des trompettes ont été reportées sine die en catimini, etc. On le voit, l'important pour survivre est de savoir enfumer son entourage avec un art consommé du mensonge. Quand on suggérait à Jacques Chirac qu'il ne tiendrait peut-être pas ses promesses faites à Bruxelles de réduction de déficit, il le prenait de haut. Comment osait-on remettre en doute sa parole? Et le pacte de stabilité alors? Ses ailes de géant l'empêchent de marcher. Enfumeur a priori pour se donner la liberté d'aller où le porte son envie, enfumeur a posteriori pour s'exonérer des échecs quand il y a échec. Cet enfumage général jette un voile sur l'histoire. Il permet aux dirigeants d'exercer davantage de responsabilités tout en les assumant moins, de se pavaner avec des oripeaux du pouvoir en s'inscrivant dans la politique du chien crevé au fil de l'eau. Cet enfumage obscurcit les questions qui nous importent au sujet de la panne de l'intelligence stratégique. Les mécanismes de cette panne existent-ils et sont-ils repérables dans l'histoire? Y a-t-il une logique commune que l'on retrouve à certains moments? Les mécanismes de la panne sont-ils repérables en soi-même? Le décideur qui s'obstine dans l'échec, dans l'irréalisme, est-il accessible à l'idée qu'il pourrait et devrait regarder le monde d'un autre point de vue? Y a-t-il au tréfonds de sa conscience une zone d'incertitude d'où puisse surgir un débat, une inflexion, un changement? Même le dirigeant le plus idéologue n'est pas qu'une horloge remontée. Doté d'une conscience réflexive, comme tout un chacun, conscience d'avoir conscience, il peut dominer ses déterminismes avec sa liberté. Peut-on opposer l'analyse, l'intelligence et la pertinence à l'idéologie, le préjugé, la croyance? Le décideur peut-il être à la hauteur de sa responsabilité et de sa liberté, ou est-il voué à patauger dans les croyances de son temps, même si ces croyances produisent des récurrentes catastrophes? Ces questions paraîtront peut-être un peu lourdes, sérieuses, fondamentales. Où est l'esprit français et voltairien qui trouve la profondeur par la légèreté? Mais c'est que la panne de l'intelligence stratégique tue, fait souffrir, suscite la misère, et que cela ne fait pas un sujet léger. L'homme, rassasié de misère, selon le livre de Job, l'est surtout de son propre...